Qui était là, on a parlé de l'église de Thyatire. Alors, l'église de Thyatire, ça se résume en quoi? Pardon? L'église de la tradition. Très bien. Alors, mes 19 et demi. On va voir Sardes. Je vais essayer d'être moins bavard que hier. Et on parlera de Philadelphie pour terminer demain avec Laodicée, parce que sur Laodicée, il y a pas mal de choses à dire. Sardes, chapitre 3, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voilà l'antique cité de Sardes occupait un emplacement privilégié. Elle était construite sur un plateau autour duquel il y avait un fleuve qui avait creusé sur trois côtés des gorges assez profondes et on ne pouvait accéder que par un seul côté à cette cité et le chemin était assez raide, assez difficile. Savez-vous comment s'appelait le fleuve? Le Pactole. Pactole. De suite, on pense au sou. Eh oui, parce que dans ce fleuve, il y avait des paillettes d'or en plus. Et le roi Crésus, fabuleusement riche, en fut le roi. Au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est donc, on parle de riche comme Crésus. Voilà. Donc il avait juste à descendre, à mettre des bottes ou des cuissardes, et puis à ramasser un petit peu les paillettes. Enfin bon, c'était peut-être pas aussi simple que ça, mais voilà. Et c'est ce qui a fait la richesse de la ville et la richesse de son roi, qui n'était autre que Crésus. Dans le fleuve, il y avait donc les paillettes d'or qui firent au départ sa richesse, puis on y travaillait l'orfèvrerie, et la ville était riche de vergers et d'artisanat de textiles. Après la conquête perse, elle tomba dans l'oubli, et puis c'est Tibère qui la rebâtit suite à un tremblement de terre. La ville était réputée pour son industrie de laine et de teinture, mais elle était aussi réputée pour sa débauche, pour des orgies fabuleuses qui étaient organisées en son sein. Et l'église de Sardes reflète en quelque sorte l'histoire de la cité. Autrefois renommée pour ses œuvres spirituelles, aujourd'hui, elle est morte. On ne connaît rien des origines de cette église. Mais ce que l'on découvre, c'est qu'après avoir goûté à la vie, elle s'est laissée, disons, engourdir. Et nous avons, eh bien, ce verset premier qui est assez redoutable dans son diagnostic. Je connais tes œuvres. Donc je connais. Ça, on le retrouve pratiquement pour toutes les églises. Je connais. On ne peut rien cacher à Dieu. Dieu connaît. Mais il ajoute, et je sais. Non seulement je connais, mais je sais, j'ai établi par rapport à ce que je connais un diagnostic. Et je sais que tu passes pour être vivant, alors qu'en réalité, eh bien, tu es mort. Voilà donc, disons, une génération, eh bien, de croyants dans l'histoire de l'Église qui peuvent paraître, disons, spirituels, mais qui en réalité, eh bien, sont morts. Et ici, il n'est pas question de doctrine. On peut imaginer que, quant à la doctrine, ces gens étaient restés fidèles, étaient restés d'aplomb. Mais disons que cette Église ressemble un petit peu aux pharisiens que Jésus a repris sévèrement et qui l'ont combattu. Ils avaient l'apparence de la piété, mais ils reniaient ce qui en faisait la force. Au premier coup d'œil, on avait le sentiment que tout était bon. Ils avaient l'allure, ils avaient le langage, ils avaient le comportement, mais en réalité, au fond, eh bien, c'était un grand vide, c'était la mort. Avoir une apparence de vie, une réputation, mais le seul que l'on ne puisse pas tromper, c'est le Seigneur. Il sait ce que nous sommes, en réalité et en vérité. Cette ville était sur le roc, elle était en sécurité, et Jésus fait bien allusion à cela. Bien sûr, on ne pratique pas des péchés grossiers, mais il y a ceux qui sont subtils et qui s'appellent aussi péchés. Nous n'avons pas, comme dans l'Église catholique romaine, les péchés véniels et puis les autres. Il n'y a pas une hiérarchie. Il y a le péché. La Bible parle de la bassesse. Voilà, ça c'est aussi un péché. Et Jésus dit, je sais. Et il ajoute, sois vigilant. Fais attention. En quelque sorte, ressaisis-toi. Et puis essaie de repartir, et bien sur de bonnes bases. L'appréciation de Dieu ne correspond pas à celle des humains que nous sommes. Parce que, entre nous, on tombe toujours plus ou moins d'accord. Vous avez des gens, quand ils engagent une conversation, ils disent, bon, écoute, toi, t'es pas parfait, moi non plus. Voilà. Donc, à partir de là, on est sur un terrain où on va finir par s'entendre. Je suis pas parfait, toi non plus, donc, voilà. Mais, quand je suis en conversation avec Dieu, c'est pas comme ça. Je peux pas dire à Dieu, bon, écoute, Dieu, tu n'es pas parfait. Non, parce que là, ça sonnerait faux. Hein. Donc, le dialogue n'est pas le même. Moïse, quand il a eu la révélation de Dieu dans le désert, au travers du buisson en feu, Dieu lui a dit, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et en fin de compte, la première manifestation de la présence de Dieu, c'est toujours ça. Sa sainteté et le fait que nous, eh bien, nous sommes pécheurs. Plus ou moins, d'accord, mais pécheurs. Et si nous avons désobéi à un seul des commandements, eh bien, on est fichu. Mais Seigneur, moi, j'ai fait que ça. Lui, il a fait plus que ça. Mais on n'est pas là dans ce type de comparaison. Et chaque fois que le Seigneur parle à son Église, il la ramène toujours à la source des délivrances. Il rappelle l'œuvre de la croix. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il ne cherche pas à nous perdre. Et quand il nous secoue, peut-être parfois, c'est pas pour nous perdre, c'est pas pour nous faire du mal. C'est simplement parce que il nous aime et qu'il veut, eh bien, nous sauver. Et il nous ramène là, au lieu où je peux recevoir le pardon de mes fautes, où le sang précieux qui a été versé peut me laver, peut me purifier, là où je peux, eh bien, remettre les choses en ordre et où je peux, eh bien, repartir de plus belle. Et d'ailleurs, quand nous commémorons le dimanche, puisque dans nos milieux c'est ainsi, et nous le faisons chaque semaine, nous participons au pain et au vin, nous rappelons, nous commémorons le mémorial, la croix de Jésus, le sang versé, son corps meurtri, et nous sommes là pour nous souvenir, et pour, si besoin était, remettre un petit peu les choses d'aplomb et pouvoir aller de l'avant. Un jour, j'ai eu un entretien avec une personne qui, disons, persévérait allégrément dans une désobéissance grave et flagrante, et je lui ai conseillé de s'abstenir de la communion. Personnellement, je n'ai jamais interdit aux personnes de prendre la communion. Mais dans certaines situations, je leur ai dit, écoutez, voilà, vous êtes comme ça, voilà ce qu'est le partage du pain et du vin, le partage de la scène, et vous n'êtes pas en situation, donc je vous conseille vivement de remettre les choses d'aplomb et de vous abstenir tant que ce n'est pas remis d'aplomb. Et la personne, elle m'a regardé, elle m'a toisé un peu, puis elle m'a dit, mais vous savez, moi, il y a déjà des mois que je ne la prends pas. Et je n'ai pas trop apprécié sa réponse, parce que ça faisait des mois qu'elle ne la prenait pas parce qu'elle se sentait reprise, mais ça faisait des mois qu'elle n'avait pas remis de l'ordre dans sa vie. Et ne pas remettre de l'ordre dans sa vie, si le Seigneur revient, comment faire? En fin de compte, le problème n'est pas de ne pas prendre la scène. Le problème, c'est de régler, de mettre en ordre, et justement de la prendre. Et je crois que le Seigneur nous rappelle toujours, eh bien, l'œuvre de la croix. Et il nous met au bénéfice, eh bien, de son sacrifice. Il sera dit donc au verset 3, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. » Paul dira aux Thessaloniciens, on raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles et en servant le Dieu vivant et vrai dans l'attente, eh bien, du retour en gloire du Seigneur. Et ça, en fin de compte, c'est le résumé, en quelques mots, de la conversion. Comment l'Évangile vous a atteint, et parce que l'Évangile vous a atteint, vous vous êtes débarrassé des idoles, vous êtes débarrassé du superflu, et vous vous êtes mis au service de Dieu, sans perdre de vue qu'il est celui qui revient, et qui revient bientôt. Et je pense que de temps en temps, eh bien, il est important de se rappeler comment nous avons reçu, comment nous avons entendu la parole. Et peut-être que le moment de la communion, c'est aussi un moment où je peux me souvenir comment ça s'est passé. Ce qui s'est produit dans ma vie, les circonstances qui ont amené à ce que j'entende l'Évangile, que je comprenne l'Évangile, et que l'Évangile puisse faire ce travail de salut dans ma vie. C'est important. Parce que ça nous permet, eh bien, de retrouver cette fraîcheur. Je crois l'avoir déjà cité ici, un jour dans une assemblée, c'était à Meknès, donc j'arrivais de Casablanca, 250 km, on montait toutes les semaines pour les réunions, et quand je suis arrivé, chez qui je devais partager le repas le soir, la personne, elle était complètement défaite, complètement démoralisée. Elle ne s'en sortait pas par rapport à une certaine maladie, et puis, bon, ben, elle était dégoûtée, Dieu n'exaucait pas ses prières, etc., etc. Alors, j'ai essayé de parler un petit peu avec elle, mais bon, elle n'était pas du tout disposée à écouter qui que ce soit, et quoi que ce soit. Et puis, à un moment donné, je lui dis, mais au fait, elle s'appelait Amalia. Je lui dis, Amalia, vous vous êtes convertie comment ? Et pourquoi vous me demandez ça? Ben oui, dites-moi, comment vous vous êtes converti? Alors, je savais comment c'était. Elle me dit, ben, je suis venu à La Réunion, j'étais malade, je m'en sortais pas depuis des semaines et des semaines, j'ai entendu l'Évangile, pour la première fois, on a prié pour moi, et j'ai été guéri. Et avant même que je dise un mot, elle a compris. Elle a dit, mais au fait, ce qui s'est passé cette fois-là, ça peut certainement se passer ce soir. Eh bien, j'ai dit, c'est bien, avant de manger, on va prier. Et son mari est venu, ma femme était là, et on a prié ensemble, et le Seigneur l'a secouru. Il a juste fallu qu'elle se souvienne comment elle avait fait cette première expérience de délivrance et de salut. Et de temps en temps, peut-être, il est juste nécessaire de se souvenir comment l'Évangile est venu à nous. Et comment le travail s'est fait. Et ce qui s'est fait pour la première fois, mais ça peut se faire aujourd'hui, même si c'est 40 ans après, hein. Il n'y a pas de problème, parce que lui, il n'a pas changé. Il faut que nous restions dans la simplicité. J'allais dire dans une situation d'enfant qui croit, qui accepte, qui ne va pas chercher je ne sais quoi, je ne sais qui. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Autrement dit, souviens-toi comment tu t'es converti. Comment, pour la première fois, eh bien, tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie. Et aujourd'hui, eh bien, tu peux marcher de la même manière. Alors, il est dit, garde-la. Garde ma parole. Garde cette parole qui t'a bousculé, qui t'a bouleversé et qui a fait de toi un enfant de Dieu. Il faut que nous restions attachés à la simplicité de la parole. Quelquefois, les gens, ils se posent des questions, mais ils vont chercher les choses. Ouf. Alors, bien sûr, on peut toujours jouer aux théologiens et apporter. Mais il y a des choses qui sont simples, élémentaires. Et je crois que la parole, eh bien, elle est à la portée de chacun, du plus simple, du plus ordinaire, comme de celui qui serait le plus compliqué. Mais acceptons de garder la parole dans sa simplicité. Et il est dit, repens-toi, c'est-à-dire remets de l'ordre. Fais vraiment un demi-tour, là, parce que tu t'es laissé aller. Tu as nourri un petit peu la façade, mais maintenant, c'est bon, c'est fini. Parce que je connais, je sais. Alors j'aimerais connaître et savoir autre chose de toi et je t'en donne l'occasion, je t'en donne la possibilité. C'est ce qui est dit, eh bien, à cette église de Sardes. Et nous reprenons ce texte que nous avons déjà cité. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure chez lui. C'est simple. C'est très simple, mais c'est tellement beau. C'est tellement riche. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Mon Père l'aime. Nous venons et nous nous installons chez lui. Pas sur le salon, non, chez lui, sur le trône du cœur, dans sa propre vie. Et ça va donner une dimension autre à notre propre personne. Il faut un départ dans la vie chrétienne, bien sûr. Ça s'est passé quand, votre départ? Je vais vous faire sourire à nouveau. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est le samedi 19 novembre 1960 à 22h. Ça a été mon départ. Et c'est quand, votre départ? Parce qu'il faut un départ. Mais non seulement il faut un départ, mais il faut quand même persévérer pour pouvoir arriver. C'est bien de prendre la ligne de départ. C'est quand même important de pouvoir franchir la ligne d'arrivée. Et comme disait quelqu'un, il y a des gens qui sont presque sauvés. Jésus dit qu'il faut entrer par la porte. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages pour son âme. Alors, on est tous passés par la porte pour arriver dans ce lieu. On aurait pu rester sur les escaliers, photographier la porte, caresser la porte. s'asseoir et s'adosser sur la porte. Presque dedans, et complètement dehors. Et il y a des gens qui sont presque sauvés. Ils photographient Jésus, ils caressent Jésus, ils sont là, au contact de l'Évangile, mais voilà, ils s'adossent, mais ils ne franchissent pas le seuil. Ils ne font pas le pas qui les amène sur l'autre terrain. Presque sauvés, mais entièrement perdus. Autant perdus que celui qui est à l'autre bout de la ville, et qui ne voit pas la porte, et qui ne connaît pas la porte, qui ne peut pas la photographier, qui ne peut pas la toucher, qui ne peut pas s'adosser contre elle. Autant perdu que celui qui est à l'autre bout. Parce qu'il faut franchir le seuil. Et ce qui fait la différence entre ces deux mondes, c'est la croix. C'est le Christ. Je suis la porte, non pas une des portes. À Jérusalem, il y a plusieurs portes, de Damas, de Jaffa, des brebis, du lion, etc. Et vous pouvez rentrer dans la vieille ville par n'importe quelle porte. Mais là, il n'y en a qu'une de porte. Je n'ai pas le choix. Et je pense qu'il faut que nous soyons sérieux. Il faut un départ, mais il faut une arrivée. Et l'arrivée, ben, on ne sait pas. Ou c'est moi qui pars, ou c'est lui qui revient me chercher. On a annoncé dimanche le décès de Daniel Gerber, 88 ans. Ses obsèques ont lieu vendredi. Il a marqué notre mouvement. Il a été un bon pasteur, un bon enseignant. Ici, il a été pasteur sur Manosque, quand c'était l'annexe d'Aix-en-Provence. Il a baptisé mes parents, il a baptisé ma femme. C'était un homme qui avait toujours un sourire magnifique, et il est parti. Alors, est-ce que nous partirons, ou est-ce que c'est lui qui va venir nous chercher? Parce qu'à un moment donné, il y a bien une génération où c'est le Seigneur qui va lui-même venir la chercher. Je ne sais pas. Et ça sera quel jour, mon départ ou son retour? Je ne sais pas non plus. C'est ainsi que nous sommes invités à nous tenir prêts. Il est important que nous puissions ne pas vivre sur le passé. Simplement se nourrir des expériences du passé qui ont leur valeur, qui ont leur richesse, qui nous ont, disons tant bien que mal, amenés à aujourd'hui, mais j'ai besoin aujourd'hui de vivre quelque chose avec Dieu. Je ne peux pas me nourrir de pain rassis, même si le boulanger qui l'a fait, c'est un boulanger de renom, hein. Donc, chaque expérience m'amène un petit peu plus loin. Comme pour Élie, qui a découvert sur le mont Horeb une autre facette de Dieu. Et c'est vrai que, à Sardes, beaucoup n'étaient plus ce qu'ils étaient au départ. Ils vivaient sur le passé et ils voulaient ne pas affronter la réalité du présent. Et vous savez, aujourd'hui, c'est pas facile, la vie. Mais il y a 70 ans, c'était pas plus facile. On allait sortir de la guerre. Alors, pour moi, ça ne fait pas grand-chose. Moi, j'étais dans le sein de ma mère à cette époque. Quelques-uns, peut-être, étaient enfants. Les restrictions, etc., etc. C'était différent. Aujourd'hui, on craint les djihadistes. À l'époque, on craignait la Gestapo. Vous savez, à chaque génération, il y a ses problèmes. Et on n'est pas là pour faire des comparaisons. Est-ce que c'était plus dur? Est-ce que c'était plus facile? Ce qu'il faut, c'est affronter la réalité avec la grâce de Dieu. Et lorsque nous prenons la scène, eh bien, nous voulons garder le témoignage de l'œuvre du Seigneur. Je suis sauvé parce que Jésus est mort pour moi. Et ceci doit demeurer vivant en moi. Nous aimons le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et il est bien dit, au verset 3, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la, repens-toi, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Et ça, c'est l'enseignement de l'Écriture. Nous savons qu'il revient, mais qu'il revient un petit peu comme un voleur. Et si on savait quand est-ce que le voleur va venir nous cambrioler, eh bien, on se mettrait devant la porte, bon, pas avec un fusil, mais quand même, on prendrait nos précautions, hein. Et comme on ne sait pas, eh bien, c'est un petit peu comme cela. Ça sera pour beaucoup une grande surprise. Et pour les croyants, pas vraiment. Parce que dans le fond, nous l'attendons. Et dans cette attente, eh bien, nous le servons. Je reprends ce que j'ai dit concernant les Thessaloniciens. Ils attendent des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Et dans cette attente, ils servent. Ils travaillent. Et ça, c'est tellement important. Paul dira à Timothée, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Qui auront aimé son avènement. Qui auront attendu son retour. Qui n'auront pas perdu de vue ce jour de la grande délivrance. Qui auront aimé son avènement. Alors peut-être que certains redoutent cet avènement. Peut-être que d'autres vont le subir. Mais ici, il est question de ceux qui l'ont aimé. Et que Dieu fasse que nous ne soyons pas de ceux qui le redoutent. Seigneur, si tu pouvais repousser un peu, parce que tu sais, j'ai quelque chose à faire. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a dit, j'espère que le Seigneur ne va pas revenir avant que je me marie. Et tu te maries quand ? Je peux comprendre, hein. Voilà. Mais bon. Alors, il y en a qui redoutent, puis il y en a qui vont le subir. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui aiment son avènement. Et de ceux qui, même, par leur engagement, le préparent. Le Seigneur veut mettre en nous une vie qui ne s'altère point, une vie jaillissante, une vie abondante. La ville de Sardes a été prise par Cyrus. Et Alexandre le Grand, plus tard, par un sentier cheminant sur une muraille abrupte, non gardée. C'était, semble-t-il, imprenable. Mais il y a un soldat qui a mal manipulé son casque, et son casque a roulé. Il est tombé là, de la falaise. Et par ce chemin secret, il est descendu pour aller récupérer son casque. Et les autres, ils ont observé par où il est descendu, et en fin de compte, par où il est remonté, c'est le même chemin. Et quand il a eu récupéré son casque et qu'il s'est bien protégé, ouf, mon capitaine ne fera pas de reproches, et bien les autres, ils ont attendu la nuit et ils ont pris le chemin. Et ils les ont piégés. Et c'est ainsi que ils se sont emparés de la ville et que la ville a été neutralisée. La Bible nous dit, « Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Il rôde. L'autre soir, je regardais un reportage, c'était l'histoire de, je crois que c'était deux guépards, deux sœurs, qui ont été, disons, qui ont pris leur autonomie, qui n'ont plus été avec leur mère. Et bon, mais toutes les deux, il a fallu qu'elles apprennent à se nourrir et qu'elles chassent. Et elles n'avaient jamais chassé toutes seules. Alors une fois, deux fois, ça n'a pas trop marché. Mais l'instinct est là. Et à un moment donné, elles ont repéré une gazelle qui était un mâle, qui était fatigué. Donc, elles ont porté leur dévolu sur cette antilope. Et l'antilope court plus vite que le guépard. Mais bon, dans leur instinct, il y en a une qui s'est mise là, et l'autre, elle a commencé à courir derrière l'antilope, ici. Et bien sûr, l'antilope, waouh, et le guépard a,
n'a pas réussi à attraper l'antilope, gagner du terrain. Seulement, l'antilope a donné tout ce qu'il avait pour échapper. Et quand il a vu que celle qui suivait, eh bien, perdait du terrain, il a quelque peu essayé de reprendre son souffle. Et c'est là que l'autre est sorti en embuscade. Et l'autre, elle était toute fraîche. Elle n'avait pas couru un mètre. Et hop, elle est morte. Ben, le lion, c'est ça. Et le diable, c'est ça. Il rôde. Voilà, un coup il passe là, un coup il passe ailleurs, un coup il regarde. Voilà. Et puis, si le Seigneur dit je sais, ben lui aussi il sait. Il ne sait pas tout, mais il en sait pas mal. Il ne sait pas tout parce qu'il n'est pas Dieu, mais il sait pas mal de choses. Et son but, c'est de poser sa patte sur nous. Donc, on ne va pas non plus vivre dans la terreur, dans le stress permanent. Non, nous sommes simplement invités à veiller, veiller. Soyez vigilants. Faites simplement attention. Et dans ma vigilance, eh bien, c'est de pouvoir fixer mes yeux sur lui. Parce que c'est sur Jésus que je vais trouver toutes les ressources, toutes les substances nécessaires pour mon affermissement, mon développement et pour, eh bien, ma croissance. Que Dieu puisse nous aider et nous bénir. Amen. On passe à Philadelphie, c'est pas trop long. Ça va? Sinon, on va fermer la porte, hein, vous ne partirez pas. Alors, on va parler de Philadelphie. On va quand même lire le texte d'abord. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Il s'agit donc ici de la sixième église, et elle porte un nom magnifique, Philadelphie, qui veut dire « amour fraternel ». C'est l'église de l'amour fraternel, c'est le plus beau nom donné aux sept églises. En effet, après des tumultes, après des guerres, après des rivalités politiques, un accord intervient entre deux frères, le roi de Pergame et le roi de Lydie. Et sur cet accord fut fondée la petite ville de Philadelphie en 183 avant Jésus-Christ. Pendant deux siècles, elle a prospéré. Elle était sur la route de l'Orient. Elle occupait ainsi une position stratégique. Et elle voyait passer en son sein des milliers de voyageurs et de marchands. Et sa population n'a jamais été importante, c'était surtout des gens de passage. En fin de compte, Philadelphie, c'est l'église missionnaire. À chaque église peut correspondre une période de l'histoire de l'église, et cette période pourrait correspondre au 19e, 20e siècle. Il reste bien sûr la lettre à l'église de Laodicée, mais il semblerait que toutes deux représentent les deux aspects opposés sous lesquels l'église des derniers temps doit se manifester. Philadelphie étant la partie fidèle, elle ne reçoit aucun reproche, alors que Laodicée est très sévèrement blâmée. Il sera dit, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alors, on ne sait rien des débuts de cette église, mais il semble que les premiers disciples, les premiers chrétiens, ont profité de la position stratégique de leur ville pour porter au loin le message de Jésus-Christ. Et quand on regarde dans l'histoire de l'Église, le 19e siècle et surtout le 20e ont connu de nombreux mouvements de réveil. Et la plupart ne se contentèrent pas d'évangéliser autour d'eux, mais ils ont compris l'ordre de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est dans cette période du 19e, 20e siècle, qu'il y a eu de grands départs missionnaires pour aller, tenter d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Avant cela, la vision missionnaire était assez restreinte. Beaucoup de prédicateurs exprimaient sans crainte que les peuples païens étaient sous la malédiction divine. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Et que l'on devait les y laisser sous peine de même s'opposer au plan de Dieu. Pendant longtemps, que mon ami Jean Bosco ne m'en veuille pas, on se demandait même si les Africains avaient une âme. Jusqu'à ce point. Et c'est bien au XIXe siècle que le problème des peuples se pose, le monde chrétien prend conscience de sa lourde responsabilité, et dès lors on va assister à un vaste mouvement missionnaire qui ne s'était pas connu depuis les temps apostoliques. On se met à traduire la Bible en certaines langues, et de nos jours, ça perdure. Il y a quelques sociétés bibliques, dont une avec laquelle l'action missionnaire, le département de nos assemblées, collabore étroitement et qui est basée à Valence, l'ATB, et qui s'occupe de traduire ou la Bible ou des portions, donc dans des langues qui sont des langues de tribu, les grandes langues, pratiquement tous ont leur Bible, mais il y a des langues moins connues, et il y a quand même des milliers de gens, donc ils s'occupent de traduire la Bible dans ces langues-là, pour que tout le monde puisse avoir accès à la parole de Dieu, et aujourd'hui, pas vraiment le chiffre, mais je pense qu'on arrive pratiquement autour de 3000 langues ou dialectes pour obtenir la Bible dans sa totalité ou dans certaines portions. Et Matthieu rapporte ça, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il y a plusieurs signes pour la fin des temps. Et un des signes, c'est que l'Évangile doit gagner le monde entier. Et il est dit, alors viendra la fin. Quand tout le monde aura été mis au contact, du message divin. La foi dans le retour de Jésus a favorisé l'élan missionnaire. Et nous pouvons dire avec vérité qu'une église locale qui n'évangélise plus, c'est une église qui meurt. Et un mouvement national qui perd la vision de l'évangélisation, c'est un mouvement qui se perd. Nous ne pouvons pas simplement entretenir ce que nous avons, parce qu'au fil des enterrements, il ne restera plus personne. Il faut que nous puissions aller vers les autres. Et c'est vrai qu'avant d'aller au bout de la terre, il faut déjà aller vers celui qui est sur mon palier. Mais le but, c'est que le monde soit gagné. Et l'ordre de Jésus est parfaitement clair. Allez.
Allez.
Donc c'est un mouvement, une mise en marche. C'est aller de l'avant. Et faites des nations des disciples. Le disciple, l'Écriture nous dit qu'il n'est pas plus que le maître. Mais que le bon disciple peut devenir semblable à son maître. Et le but, c'est pas simplement de donner l'évangile à quelqu'un, mais c'est de pouvoir former cette personne. Lui donner les bases fondamentales pour que, à son tour, elle puisse aller de l'avant. Être disciple, non pas notre disciple, mais disciple de Jésus-Christ. Alors, les secrets de la victoire de Philadelphie, dans ce qui nous est décrit. Premièrement, une obéissance à la parole de Christ. Parce que tu as gardé ma parole. Ça, c'est très bien. Elle sentait sa faiblesse, mais elle était forte dans l'autorité de la parole de Dieu qu'elle avait conservée. Contrairement à Laodicée, qui pensait n'avoir besoin de rien, eux, à Philadelphie, ils mettaient leur confiance dans le Seigneur et ils agissent en conformité avec la parole. Winston Churchill, le 15 septembre 1940, a prononcé cette phrase historique « Jamais dans les conflits humains, le sort d'autant d'hommes n'a dépendu du courage d'un si petit nombre de défenseurs. » Aujourd'hui, le sort d'un grand nombre dépend d'une minorité résolue, qui ne regarde pas à la faiblesse de ses moyens, mais à la parole de Dieu. Certes, nous pouvons être un petit troupeau, ne crains point un petit troupeau, mais il ne faut pas non plus faire une obsession de ça. J'ai connu une dame, elle faisait toujours dans sa prière, « Tu vois, Seigneur, on est un petit troupeau, on est un petit troupeau, on est un petit troupeau. » Et puis quand le troupeau il devient grand, les gens disent « Ouais, ouais, mais maintenant, c'est trop grand, il y a trop de monde, on ne se connaît plus. » Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Quand c'est petit, on veut que ça grandisse, et puis quand c'est grand, on veut que ça redevienne petit. Mais dans la vie, il y a des étapes. Hein. Et qu'on le veuille ou pas, il faut qu'on les franchisse. Peut-être qu'il y en a qui aimeraient redevenir à leurs 18 ans. Hein. Ouais, mais bon, vous en avez 52, et il faut les supporter, les 52. Hein. Et je crois que cette minorité, parce que qu'on le veuille ou pas, le monde chrétien est minoritaire par rapport à, même s'il y a quelques millions de gens, mais c'est l'attitude résolue, la fermeté de cette minorité qui peut devenir une source de salut, et bien pour tous les autres. Fidélité à la personne de Christ. Il est dit, tu n'as pas renié mon nom. Tu as eu l'occasion, tu as eu des menaces, tu as eu des pressions, tu as eu des tentations, mais tu n'as pas renié. Tu es resté accroché. Et c'est à ce nom qu'elle devait tout. C'est à ce nom que nous devons tout. Nous sommes sauvés par ce nom. Nous prions en ce nom. Nous sommes quelquefois l'objet de moqueries, ou même de haine. À cause de ce nom. Mais c'est par ce nom qu'elle recevait la force. Et c'est toujours par ce nom que nous allons recevoir la force pour affronter les réalités de la vie. Il y avait l'expérience de la puissance de Christ. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Les croyants de Philadelphie s'appuyait sur Jésus-Christ, sachant que l'autorité lui appartient toujours. Leur espérance se concentrait sur celui qui avait ouvert le chemin nouveau jusqu'au Père, et ils savaient que personne ne pouvait fermer les portes
qu'il avait ouverte devant eux pour la conquête de l'Évangile.
Ensuite, il y a la conviction quant à la position en Christ. Dans cette cité de l'amour fraternel, ils étaient unis à Christ et à ceux dont la position était la même. Et ça, c'est important. L'Écriture dit que c'est à l'amour dont nous nous aimons que le monde reconnaîtra que nous sommes de Dieu. Sans rien dire, simplement en étant ce que nous sommes en Christ. Alors bien sûr, il y a des gens, ils sont tellement spirituels, eux ils sont branchés sur Dieu, et les autres, ils connaissent pas. Mais ça, c'est une utopie. Je peux pas me brancher simplement sur Dieu et ignorer ceux qui partagent la même foi que moi. Et quand nous partageons la scène, j'y reviens, bien sûr que nous rappelons le sacrifice de Jésus, nous rappelons qu'il est ressuscité, qu'il est à la droite de Dieu, qu'il est notre avocat, et nous rappelons qu'il est celui qui revient bientôt. Mais la communion, c'est pas simplement, disons, une communion avec celui qui est assis sur le trône, mais c'est une communion avec ceux qui sont assis sur les chaises autour de moi. Et c'est ce qui donne un sens à la scène. Je ne suis pas seulement branché sur Dieu, mais je suis aussi en relation avec ceux qui sont autour de moi, qui ne sont pas comme moi, c'est dommage. En fin de compte, heureusement qu'ils ne sont pas comme moi. Nous avons des différences, mais ces différences, elles ne doivent pas nous opposer, elles doivent nous enrichir. Et ça, c'est important. Il y a la communion avec Dieu, mais il y a la communion avec ceux qui partagent la même position que nous-mêmes. Dans Jean, il est rappelé ces paroles que nous connaissons tous, « Aimez-vous les uns les autres ?»« Comme je vous ai aimé. » Jésus a montré l'exemple. Et comme il a fait pour nous, eh bien, il nous demande de faire pour les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ben oui, c'est ce qui va être une interrogation pour ceux qui sont autour de nous. Pas fait pour se rencontrer, pas fait pour se fréquenter, pas du même milieu, et pourtant nous nous aimons. Un jour, il y a un chrétien, il a décidé d'inviter un de ses amis qui était un intellectuel, disons, de haut niveau, et il attendait l'occasion pour l'inviter à l'église. Parce que son pasteur, pour lui, il n'était pas, disons, trop doué, c'était pas un orateur, donc il voulait pas gâcher la fête à son ami. Puis un jour, il y a un prédicateur qui a été annoncé, qui était un prédicateur de renom. Alors il a dit, voilà, là c'est l'occasion, il va entendre un discours hors pair. Et il a invité son ami. Et son ami est venu. Et puis le culte a eu lieu. Et à la sortie, son ami, il était tout ému, tout bouleversé. Et le frère, il l'a vu. Il dit, alors, il dit, ben oui, je crois que Dieu est là. Dieu m'a parlé. Et le frère lui dit, il était bon ce prédicateur. Il dit, je ne sais pas. Et comment tu ne sais pas? Il dit, tu as bien entendu le prédicateur. Il dit, oui, mais ce n'est pas ce qu'il a dit qui m'a touché. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est qui t'a touché? Et il a dit, il y a une grand-mère là, qui était sur le même rang. Elle vend des légumes sur le marché. Et toutes les semaines, je lui achète des légumes. Je sais que c'est une femme ordinaire, très simple. Et je l'ai entendue prier.
et pour qu'une femme comme elle, aussi simple et aussi ordinaire, puisse prier comme elle a prié, c'est qu'elle connaît vraiment le Dieu de Jésus-Christ. Comme quoi, hein?
Lui, il était convaincu que l'homme de renom allait lui en mettre plein la vue. En fin de compte, c'est une petite mamie qui a prié avec son cœur, qui était très simple. Elle, elle ne faisait pas la tête des affiches. La tête d'affiche, pardon. Elle n'était pas... Ouais, mais il y avait une saveur dans ses mots. Et frères et sœurs, c'est ça qui est important. C'est à l'amour que vous portez les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Au verset 9, « Voici, je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » C'est une promesse un petit peu mystérieuse. Diverses interprétations ont été données, et il semble qu'il s'agit là d'un événement qui se déroulera tout à fait à la fin, avant l'enlèvement de l'Église, car immédiatement il y a la double annonce de la tribulation et du retour du Seigneur. Et puis, vers la fin de cette lettre, au verset 12, il est dit « Celui qui vaincra, je le ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu ». Une colonne dans le temple. Paul parle à Timothée de l'Église du Dieu vivant qui est la colonne et l'appui de la vérité. Une colonne a pour fonction de soutenir, de porter une charge. Quand Paul écrit à Timothée, il fait allusion, entre autres, à Éphèse, le temple de Diane, on en a parlé, ou d'Artémis, une des sept merveilles de l'Antiquité qui comptait 127 colonnes. Chacune avait été offerte par un roi. Elles étaient recouvertes d'or et enchâssées de pierres précieuses. Et cet ensemble soutenait, portait un culte païen, qui comportait, eh bien, des sacrifices humains, de la violence, et beaucoup de pratiques superstitieuses. À l'inverse, l'Église a pour fonction de porter, de soutenir la vérité. On n'a pas à inventer la vérité. La vérité, elle existe. Jésus dira « Je suis la vérité », il dira aussi « Ta parole est la vérité ». Et nous sommes, en tant que colonne, individuellement et collectivement, appelés à porter, à soutenir cette vérité, à mettre en avant la personne de Jésus-Christ, la parole immuable de Dieu. Et il est dit « Et l'appui, colonne et appui. L'Église constitue les fondations, les piliers qui soutiennent la vérité, les fondations également. C'est ici sa mission, sa raison d'être sur la terre. Et comme les fondations et les colonnes du temple de Diane et des autres édifices semblables attestaient l'erreur de la fausse religion païenne, eh bien l'Église doit attester la vérité, mettre en lumière la personne de Jésus, la personne du Sauveur, et mettre en lumière la parole de Dieu. Et c'est dans la mesure où nous serons des colonnes ici-bas que nous pourrons être des colonnes dans la gloire à venir. Une colonne à elle seule soutient une lourde charge. Et notre charge est de faire connaître hardiment, courageusement, le glorieux message de Jésus-Christ. Donc, Philadelphie et Laodicée, c'est ce qui caractérise l'Église de la fin des temps, sous deux angles. Le second, on en parlera demain, le premier, on vient de le voir, l'Église missionnaire. Et ça, c'est important.
Alors aujourd'hui, disons, dans pratiquement, disons, tous les pays, si petit soit-il, il y a eu ou il y a encore des missionnaires. Il y a même des pays où il y en a tant et plus. Par exemple, à Dakar, au Sénégal, rien que dans la ville de Dakar, de différentes missions, il y a 300 missionnaires. Alors bon, de temps en temps, ils doivent se marcher sur les pieds, j'imagine. Et puis il y a des pays, ben, il n'y en a pas tant que ça. Puis il y en a, ben, on n'en parle pas. Claudio part, je crois, la semaine prochaine en Russie, à l'extrême, disons sud de la Russie, parce que là, il y a des gens qui travaillent et qui font des incursions en Corée du Nord. Et en Corée du Nord, il y a quand même des chrétiens. Alors, on n'en parle pas beaucoup, on n'en sait pas trop non plus, parce que c'est hyper sensible et hyper dangereux. Mais dans les endroits les plus fermés, les plus redoutables, il y a des croyants. Le général chez qui j'ai mangé en Jordanie la semaine dernière, bon, il est très bien placé, et il rentrait d'un déplacement au Qatar, en Arabie Saoudite, et il me disait que il y avait beaucoup de chrétiens en Arabie Saoudite. Et en fin de compte, le témoignage de l'évangile en Arabie Saoudite, il le vient par les femmes de ménage, ou les hommes de ménage, puisqu'ils embauchent aussi. Chrétiens parce qu'ils ont confiance. C'est déjà bien. Seulement, la plupart, ils font aussi un certain travail. Chacun de son côté, comme des petites fourmis, là. Et il y en a qui sont touchés par l'évangile. Et là, quand on a rencontré quelques familles irakiennes, en fin de compte, leur objectif, c'est de les amener, pour celles qui ne sont pas chrétiennes, à connaître Jésus-Christ. Et il y en a beaucoup qui ont la révélation du Seigneur, mais c'est de les former pour que si ces familles reviennent dans leur pays, parmi leur peuple, ou se retrouvent au contact de ceux de leur peuple, ces gens, ayant rencontré le Christ, deviennent, à leur tour, des missionnaires parmi les leurs. Et je trouve que ça, c'est une bonne vision des choses. Parce qu'ils connaissent les tenants et les aboutissants de leur culture, de leur propre pratique. Et il n'y a rien de tel que quelqu'un qui s'immerge à nouveau dans son peuple pour vivre. Alors, c'est peut-être pas non plus aussi simple que ça, aussi évident que ça, mais bon, voilà. Et je crois qu'aujourd'hui encore, il y a des milliers et des milliers de gens qui ont besoin d'être, disons, touchés par l'Évangile. Et ça, c'est notre tâche. Et c'est notre responsabilité. C'est le témoignage qui doit être le nôtre. Nous devons être une église missionnaire. Pas simplement missionnaire au bout de la terre, parce que ceux du bout de la terre, on peut les aimer de tout notre cœur. Mais il faut aimer ceux de notre quartier, que nous côtoyons. Et de par les circonstances, eh bien, notre pays est devenu, en quelque sorte, eh bien, une terre de mission. Tellement de peuples sont là. Et en fin de compte, ils vivent parfois entre eux. Et il y a un témoignage, eh bien, qui est à rendre. Et ça, c'est notre tâche, c'est notre responsabilité. Nous devons faire ce que notre main trouve à faire. Avec notre force. On ne va pas aller au-delà. Il ne faut pas rester en deçà non plus. Non, il faut faire pendant que nous le pouvons encore. Ceux qui ont de l'âge, ils auront peut-être plus de facilité pour parler à ceux qui ont de l'âge.
ceux qui sont jeunes, ils auront peut-être plus de facilité pour parler à ceux qui sont jeunes, je ne sais, encore qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent ceux qui ont les cheveux blancs. Voilà, il ne faut pas faire, disons, de différence, il ne faut pas cataloguer les gens, il faut simplement vivre. Et le Seigneur est celui qui est encore capable de nous étonner et de nous surprendre. Alors ici, nous sommes dans un département qui n'est pas un département facile. Y a-t-il un département facile? C'est déjà une bonne question. Mais, comme on dit, les gavots, c'est dur à cuire. Mais il n'empêche quand même que l'église de Manosque, dans ses premières pierres, il y avait des gens du terroir. C'était des vrais. Et quand ils se sont convertis, ils se sont bien convertis. Et ils ont été fidèles jusqu'au bout. Alors je cherchais le nom, pour pas qu'on me le donne. J'ai demandé à quelqu'un qui a été sur Manosque, il n'a pas pu me donner ce nom. Le nom du frère là, qui avait une... comment dire, il avait des terres, monsieur, voilà, c'est ça, et qu'il allait prier entre ses sacs de grains, parce que sa femme le poursuivait et le battait quand elle le surprenait en train de prier. Bon, là, c'était un vrai gavot, hein. Mais quand il s'est attaché à Dieu, donc, et je le vois encore quand il venait aux réunions qu'il pouvait venir, voilà. Et aujourd'hui, ben, la population de la ville, elle a changé. La population de l'église, elle a changé. On vous aime de tout notre cœur. Mais on aimerait aussi toucher ceux du terroir, parce qu'il en reste quand même. Hein. L'autre jour, j'étais chez le médecin, il y a une petite année, là, pour me faire faire la piqûre pour la grippe. Et j'étais tout seul, j'attendais. Il est rentré un papy. Il s'est assis en face de moi, il me regarde. C'est Adolphe. Et il me dit, vous n'êtes pas d'ici, hein. Ah, je lui dis non, je ne suis pas d'ici. Tel cœur. Et j'ai dit, mais j'habite là, juste à l'entrée, là, à côté du Péroun. J'ai dit, mais par contre, ma femme, elle est d'ici. Ah bon? Et votre femme, c'est qui? J'ai dit, c'est une fille Castel. Castel? Castel? Quel Castel? J'ai dit, Henri Castel. Ah ouais, il avait deux filles et un garçon. Vous en savez des choses, vous, hein? Et j'ai dit, ben oui, c'est ça. Et j'ai dit, autrefois, il tenait le bar. Ah oui, avec sa belle-mère, on l'appelait la tante, elle était grosse. J'ai dit, c'est ça. J'ai dit, vous voyez, je suis presque d'ici maintenant. Bon, ceci pour dire, vous voyez, d'entrée, cet homme me dit, vous n'êtes pas d'ici. Bon, ok, je ne suis pas d'ici, hein. Et j'y suis. Voilà. Donc, il faut qu'on ouvre le dialogue. Et béni soit Dieu pour tous ceux qui sont venus dans la ville de Manosque. Mais il y a des gens qui sont d'ici. Et ceux qui sont d'ici, ils ont aussi besoin qu'on les touche, qu'on ait accès auprès d'eux, même s'ils sont là un petit peu. Voilà. Et je crois qu'il faut vraiment prier. Et Dieu est celui qui va nous donner du succès, il n'y a pas de problème. Voilà. Dieu vous bénisse. Des questions ? Pas de question. Magnifique. Bon, on finit pas trop tard.